1h05, c'est la dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Le micro n'a pas mérité que vous le tapiez, Antoine Mercier. Une dernière partie autour du débat d'idées, une dernière partie plus courte que d'habitude, puisqu'en fin d'émission, nous accueillerons le rendez-vous du médiateur. Une dernière partie donc autour du débat d'idées à quelques jours des rencontres de Pétrarque qui se tiendront à Montpellier à partir du 11 juillet. Rencontres de Pétrarque qui fêtent leurs 30 ans. Et à l'occasion également de la parution d'un hors-série du Monde avec France Culture consacré à 30 ans de débat. Nous avons eu envie de faire un état des lieux de ce débat, un état des lieux des idées et donc un état des lieux du débat d'idées en compagnie de notre invité sur toute la longueur de l'émission aujourd'hui, Régis Debray, écrivain, philosophe, médiologue et autour de la table nous a rejoint Sylvain Bourmeau qui a, comme chacun sait, de la suite dans les idées. On a parlé des écrits littéraires, Régis Debray, dans la première partie. Il se trouve que vous avez aussi écrit un certain nombre d'essais. Ils sont nombreux. On peut citer ne serait-ce que ceux qui ont été publiés par les éditions Gallimard, Un Candide en Terre Sainte, Le Moment Fraternité, Dégagement, Éloge des Frontières, Du Bon Usage des Catastrophes, Jeunesse du Sacré, Moderne Catacombe, Le Stupéfiante Image, Un Candide à sa Fenêtre et le dernier en date, Madame H. Mais il en est d'autres qui portaient précisément sur les intellectuels. En 2001, je citerai IF, intellectuel français, IF, suite et fin. Et puis si on remonte encore dans le temps, 1979, le pouvoir intellectuel en France. Vous décriviez la scission de l'histoire des intellectuels ou l'évolution de l'histoire des intellectuels, mais vous la partagez en trois âges. Il y avait eu le temps universitaire, 1880-1930, puis le temps éditorial, 1930-1968. Et puis vous disiez en 1979 que depuis une dizaine d'années, nous étions entrés dans un temps où les médias avaient le pouvoir. Vous aviez appelé ça la médiocratie. Quelques 30 à 35 ans plus tard, est-ce que nous sommes de plein pied dans cette médiocratie? Ou bien la technologie nous fait entrer ou nous a fait entrer dans un âge différent? Et je pose cette question, bien entendu, au regard du débat d'idées. Hein.
Oui, vous avez raison. Le cycle médiatique n'a pas changé. Ce sont les médias qui ont changé. Donc le cycle médiatique n'est plus tout à fait de même nature. Chacun pense, bien sûr, aux réseaux sociaux, à Internet, etc. Je dirais tout de même que dans cette évolution, on ne va pas épiloguer dessus, et je ne suis pas très compétent non plus, mais disons que l'écrit tend à être de plus en plus effacé, je dirais, par l'immédiateté, l'électricité de l'image et du son, de l'image essentiellement. Et donc, je dirais que le métier intellectuel doit s'adapter, comme toujours, à l'écosystème, l'écosystème des médiations. Qu'est-ce qu'un intellectuel ? C'est un intellectuel, d'abord c'est un guerrier, c'est quelqu'un en tout cas qui veut peser sur le cours des choses en intervenant dans le domaine politique. Comment ? En rendant publiques ses opinions privées sur le cours des choses. Alors pour les rendre publiques, il faut des moyens de publication. Bon. Alors il y a des intellectuels très malins qui prennent le contrôle des moyens de publication, c'est ceux qui sont les tenants du titre, pour ainsi dire, parce qu'eux, ils peuvent intervenir partout, quand ils veulent, ils décrochent leur téléphone et ils sont là où il faut être. Et ils interviennent en politique, pas toujours dans le meilleur sens. Bon. Donc, vous parlez du débat d'idées, moi je l'ai suivi d'un peu loin, je suis très content d'aller écouter à Pétrarque ceux qui ont animé le débat d'idées, mais il y a beaucoup de points sur lesquels je n'ai pas d'idées, je vous avouerai.
un point sur le débat, un point sur les idées, un point sur le débat d'idées.
Non, alors, sur le débat, j'ai ma petite idée, c'est que ce qui s'appelait combat hier s'appelle débat aujourd'hui.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que naguère, c'est monsieur Jadis, c'est épouvantable, monsieur c'était mieux avant, passons sur ça. Naguère, on avait des convictions en matière politique. Aujourd'hui, on a des opinions. Quand on a des convictions, on se bat. Quand on a des opinions, on débat. Ça n'a plus la même intensité, ce n'est plus une confrontation, ce sont, dans le meilleur des cas, des conversations. Tant mieux, c'est plus civilisé. Mais ça note, si vous voulez, une certaine baisse d'intensité des investissements psychologiques et intellectuels.
Sylvain Bourmont.
On va revenir sur le débat d'idées, mais je voulais un instant m'arrêter sur ce que vous avez dit sur l'évolution, ces remarques médiologiques, on pourrait dire, des transformations de l'espace dans lequel on débat. Je suis pas forcément sûr d'être d'accord avec l'idée que l'écrit est en retrait, dans la mesure où précisément les réseaux sociaux fonctionnent beaucoup avec des mots. Alors c'est vrai, des mots instantanés, des mots immédiats, des mots qu'on peut publier directement. Donc c'est vrai qu'un régime nouveau de la publication des opinions privées se fait jour. Et moi j'ai été très intéressé par une nouvelle qui est tombée hier, reprise dans la presse, parce qu'il faut vraiment guetter ce qui se passe du côté des algorithmes qui font fonctionner tous ces univers. Facebook a annoncé qu'il allait bouger le curseur de façon à renforcer les amis, les personnes, au détriment des institutions, des médias.
Et renforcer également le visuel. Et la vidéo.
Renforcer le visuel et la vidéo, ça c'est ce qu'essayent de faire beaucoup d'acteurs du numérique parce qu'ils pensent que la publicité est plus rentable avec des images.
Oui, expliciter peut-être Sylvain Bourmont, si vous voulez dire.
Oui, parce que ça me semble un élément important, c'est-à-dire que il y a Facebook a décidé de pondérer différemment l'algorithme qui fait qu'apparaît sur votre page telle ou telle chose, et pour privilégier en fait ce qui est publié par des individus, par des personnes, au détriment de ce qui est publié par des médias, par des éditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, Antoine Mercier, si vous postez un message, il sera plus vu par les gens qui vous suivent qu'un message qui serait posté par l'institution France Culture à laquelle vous appartenez. Donc tout ça fait que on va avoir une accentuation d'un phénomène qui déjà est en place depuis longtemps, qui est que ces intellectuels, mais plus largement un certain nombre de personnes, deviennent des médias personnels, et qu'on a une destruction du capital culturel au fond qui fonde un certain nombre d'institutions. Et donc on va aller vers une horizontalisation de plus en plus grande encore de l'espace public. On sait bien que la manchette d'un grand journal aujourd'hui n'a plus le même impact, de la même façon que le journal de 20h n'a plus le même impact qu'il avait il y a 20 ans. Et on se trouve avec une organisation, une circulation, une confrontation d'opinions privées de gens qui ont plus ou moins de followers, plus ou moins de poids médiatique, mais c'est désormais l'univers dans lequel vont évoluer ces intellectuels.
Régis Debray.
Oh, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Alors bien sûr que l'écrit quantitativement se porte bien, puisque tout le monde écrit sur ce petit écran, bien sûr, mais c'est plus le même écrit. Hein. L'écriture simple et directe, comme on dit, sans orthographe, sans rhétorique, et donc bientôt le punchline, c'est-à-dire la brutalisation des impatiences. C'est-à-dire tout de même un peu plus de barbarie éventuelle. La lecture se porte bien, sauf que c'est plus la même lecture, hein. C'est plus la lecture d'immersion qu'on avait quand on lisait des livres. Jadis, c'est la lecture de picorage. C'est une autre sorte de lecture, c'est une lecture rapide, sélective, utilitaire. Voilà. Donc, effectivement.
Le monde change.
Pardon ?
Le monde change.
Évidemment que
voilà.
Le monde change.
Le monde change.
Heureusement, on s'ennuierait mortellement.
Mais il y a la question.
Cette lecture de picorage, c'était déjà le fait des intellectuels. Au fond, ça ressemble au travail que fait un universitaire quand il prépare un livre. Il picore beaucoup. Alors qu'effectivement, le lecteur simple, le grand public, lui, on lui apprend à l'école qu'un livre, ça se lit du début à la fin, en respectant la chronologie. Est-ce qu'au fond, tout le monde ne devient pas, n'a pas un rapport au savoir qui ressemble davantage à celui de l'intellectuel autrefois ? C'est pour essayer de rendre les choses un peu positives.
Régis Debray, je vais revenir au débat d'idées quand même qui est le sujet de cette émission.
Non, mais c'est amusant ce que vous dites. Moi, je opposerais le balayage au picorage, pour tout vous dire. Je balaye, mais je ne picore pas.
Régis Debray, il y a la question de l'espace, des supports, bien entendu. Mais il y a la question des sujets et il y a la question de la forme. Vous disiez il y a quelques minutes que, malgré tout, les formes du débat étaient plus civilisées. Alors, avec peut-être un regret de passant des convictions aux opinions. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord au sujet, au pluriel, sur lesquels on débat. Vous dites que vous êtes un observateur lointain, mais vous êtes quand même un observateur et un témoin, et témoin actif, puisque vous avez participé à Pétrarque, vous allez y participer aussi cette année. À la fin du hors-série du Monde et de France Culture, consacré à ces 30 ans de débat, on peut lire trois contributions de la part de philosophes, dont l'une est de Patrice Maniglier, qui parle de cette évolution du débat d'idées, où on est le débat d'idées en 2016, et il utilise le mot « régression ». Est-ce que vous seriez d'accord que cette évolution de notre débat d'idées depuis 30 ans se pose en termes de régression? Ou est-ce que c'est plutôt mieux, différent, moins bien, pareil? Comment c'est vous?
Non, écoutez, tout le monde a diagnostiqué à toute époque une régression. Non, je ne suis pas de cela. Simplement, je note quelque chose qui me préoccupe quant au débat d'idées, c'est l'événementialisation. La dictature croissante de l'événement qui, pour moi, cache les transformations silencieuses, cache les transitions sourdes et décisives. Je pense que la dictature de l'événement, c'est-à-dire l'émiettement, si vous voulez, du regard et de l'attention, au fond, c'est une œillère, c'est un formidable pouvoir d'occultation. Et là, dans la mesure où le débat d'idées s'accroche de plus en plus à des médias immédiats, si vous voulez, avec des réactivités, là, je pense que on oublie la longue durée, bien sûr, c'est banal, mais on oublie exactement à analyser les changements invisibles qui sont déterminants.
Voilà. Ce sont lesquels, en l'occurrence?
Hein?
Lesquels? Vous parlez de quoi précisément?
On a beaucoup. Bon, disons le. La désagrégation du politique, ou pour aller vite, le remplacement de l'institution par l'association, c'est-à-dire du vertical par l'horizontal, la fin de l'État, pour aller vite.
Là, on en parle quand même.
L'apothéose de l'entreprise. Il y a une autre transformation silencieuse qu'on n'a pas bien vue, c'est l'américanisation de la France. C'est quelque chose de considérable. Mais à force de vivre dedans, on est comme le poisson dans son bocal.
On l'a beaucoup dit, il y a une vingtaine d'années, on en parlait beaucoup de ça.
Non.
Écoutez,
c'est quoi les dernières manifestations?
Bah, écoutez, tout ce qui se passe de nouveau en politique, excusez-moi, ça vient des États-Unis. Hein. Les primaires, le discours de l'Union transposé dans le discours aux deux assemblées. C'est un effet sur M. Sarkozy de ce qu'il voit à la télévision, hein, le président. Les États-Unis qui s'adressent aux deux chambres, le Air Force One, le Pentagone français, enfin, que ce soit, si vous voulez, dans la langue ou que ce soit dans nos mœurs, c'est un phénomène capital. Parce qu'avant, il y a eu italianisation de la France au XVIe siècle. Il y a eu le devenir britannique au 18e, l'influence britannique considérable. Mais elle s'exerçait par le haut. L'américanisation de la France, ce qui est formidable, c'est qu'elle s'exerce par le haut et par le bas. C'est-à-dire par le hamburger, qui a vaincu le fromage beurre, le sandwich au fromage beurre, et par le haut, qui fait qu'aujourd'hui, tous les enfants de l'élite vont aux États-Unis, n'est-ce pas? Et que l'élite pense, sans le savoir, américain. Mais, pourquoi? Parce que, comme Baudrillard disait, on est passé de la domination à l'hégémonie.
Sauf qu'avec Trump, ça va peut-être changer, non?
Hein?
Ça va peut-être changer avec Trump, précisément.
Ah bah avec Trump, ça provoquera peut-être un sursaut identitaire, comme on dit chez nous. Bon, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de journalistes à Washington le jour de l'élection qu'il n'y en a à Paris le jour de la présidentielle.
Sylvain.
Le débat d'idées ou l'état du monde intellectuel, c'est l'une des choses les plus complexes sans doute qu'ont les intellectuels à penser. Parce que d'abord, ils y sont de plein pied. Alors c'est à la fois nécessaire et très compliqué. Donc c'est pour ça que le livre que vous aviez publié à la fin des années 70 sur le pouvoir intellectuel était précieux, parce qu'il remettait dans une perspective historique un certain nombre de choses. Et il nous permettait de comprendre un peu l'univers dans lequel on était. Moi, mon impression, c'est que depuis, les choses sont devenues encore plus compliquées à se représenter. Et que cette crise de la représentation, cette crise qui est aussi une crise de la visualisation du monde dans lequel on vit, pour les raisons que vous disiez tout à l'heure, le crépitement de l'actualité qui masque au fond les big news, comme disait Robert Park, eh bien, ça empêche de voir ce qui peut constituer peut-être des clivages extraordinairement puissant qui aujourd'hui structure le monde intellectuel, et je suis frappé personnellement de constater que beaucoup de gens qui commentent cette vie intellectuelle ne semblent pas partager mon impression de ces clivages qui par exemple, pourrait ne pas tout à fait recouper le clivage classique droite-gauche, loin s'en faut.
C'est quoi les
clivages? Je vais prendre un événement qui me semble très important, puisqu'il s'agit de se repencher sur 30 ans de vie intellectuelle. Il me semble que la scission la Fondation Saint-Simon, le départ d'un côté de Marcel Gauchet qu'on entendait ce matin chez Guillaume Herner sur cette antenne, et de l'autre de Pierre Rosanvallon.
Il n'était pas invité ce matin. On entendait les archives. Non, c'était pas Marcel Gauchet.
On entendait, oui. Pardon. D'un côté Marcel Gauchet, de l'autre, Pierre Rosanvallon, par exemple, cette scission après que se soient réunis des gens de part et d'autre de la droite et de la gauche autour de la Fondation Saint-Simon, cet éclatement me semble avoir produit des conséquences et continue de produire des conséquences aujourd'hui assez considérables dans l'univers intellectuel. Ce clivage, il me semble qu'on peut le retrouver. Alors, on pourra en trouver beaucoup de traces d'un côté dans la maison d'édition dans laquelle vous publiez Régis Debray. Par exemple, c'est qui relève de ce pôle autour du débat d'un
chez
côté
Gallimard, vous voulez dire.
N'est pas tout à fait la même ligne éditoriale. Alors, il y a des exceptions, c'est des caricatures.
Mais c'est quoi, vous mettez quoi derrière Gaucher aux Envalons? Qu'est-ce que vous mettez comme clivage? C'est quoi
Il nous faudrait des heures pour rentrer dans le détail, mais il y a là des désaccords assez forts. Ils ont été manifestes, enfin, dans des écrits. Donc voilà par exemple un clivage qui me semble aujourd'hui intéressant. On pourrait aussi, d'ailleurs, c'est contemporain, s'arrêter sur la création de la Fondation Marc Bloch et la Fondation du 2 mars qui réunissait des gens qui venaient de part et d'autre, de la droite et de la gauche. Que sont-ils devenus depuis? Ça aussi, cet événement me semble continuer de produire aujourd'hui des formes de structuration de l'espace public. Pour autant, ils ne sont jamais tellement pensés en tant que tels, en direction du grand public en tout cas.
Régis Debray.
Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison d'abord de mentionner la Fondation Saint-Simon qui me semble un embrayeur décisif. Et un débrayeur, s'il faut se dire, c'est-à-dire que c'est la première fois que, d'abord, un projet explicite de transformation de la société qui regroupe à la fois l'université et l'entreprise. Il y a à la fois les organiques du CAC 40, si j'ose dire, comme Alain Minc, et je dirais les organiques de l'université, comme François Furet. Et donc ça, on assiste déjà, donc, si vous voulez, à un transport vers l'économique. Un déplacement de ce qu'on appelait l'idéologique vers l'économie. Et puis un contournement, je dirais, des procédures classiques intellectuelles, c'est-à-dire plus de thèses, plus de gros bouquins, des notes de synthèse, qu'on envoie directement chez le ministre. C'est-à-dire vraiment, c'est une façon de se brancher. On ne se branche plus sur l'opinion et on ne se branche même plus sur l'opinion des pairs. On se branche sur l'opinion des décideurs.
Alors justement, Rosanvallon a fait complètement demi-tour par rapport à ça. Il est retourné non seulement à l'université, mais il a été élu au Collège de France. Il a encouragé des initiatives intellectuelles qui sont très importantes dans le monde académique et qui n'envisagent plus du tout l'articulation entre ses recherches académiques et les grandes entreprises ou l'État de la même manière que ce qu'il a pu imaginer au début des années 90. Il en a tiré des leçons. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit par exemple au Collège de France, qui est une institution intéressante, il y a des choses passionnantes dans cette vie intellectuelle. La leçon de Patrick Boucheron, celle d'Alain Mabankou sont des grands moments de la vie intellectuelle de cette dernière année, par exemple.
Régis Debray.
Disons le Collège de France remonte la pente avec des gens très bien, ça n'a pas toujours été le cas. Et moi j'en viens presque à regretter, si vous voulez, la Fondation Saint-Simon qui n'était pas de mon bord du tout. Parce que ce que je constate et ce qui vraiment me désole, c'est la rupture entre le monde de la recherche et le monde politique.
C'est une des grandes caractéristiques de l'évolution des choses.
Pour moi, c'est capital. Le monde politique est tellement médiatisé, il est tellement, je dirais, formaté par le rythme et médiatique que, alors en politique étrangère, ça prend des proportions considérables. Il y a deux mondes pour la politique étrangère. Il y a le monde de ceux qui savent et le monde de ceux qui décident ou qui parlent, n'est-ce pas?
Mais ça, il y a 30 ans, Régis Debray, ça n'était pas comme ça?
Ah non, il y avait d'abord, il y avait des intellectuels dans les circuits politiques. Il y avait des dirigeants qui lisaient des livres. Non mais attendez, on a changé de monde. Vous connaissez, vous, un homme politique, aujourd'hui, qui lit un livre de plus de 80 pages? Moi, je n'en connais pas.
Si, il y en a quand même.
Non.
Ils se comptent peut-être sur les doigts d'une main, mais il y en a quand même.
Oui, mais ils ne sont pas au pouvoir.
Certains.
Pour le moment. Bon, vous allez me parler de Macron, peut-être.
Non.
Qui a lu des livres. Mais
un homme politique, pas plus de temps.
Non, mais...
Peu importe.
Moi, j'ai connu le monde politique avec des gens qui n'avaient pas fait Sciences Po. Donc, ils étaient des gens intelligents. Parce que Sciences Po, c'est une catastrophe, tout de même. Bon, c'est vraiment la déculturation systématique du personnel dirigeant. Moi, j'ai connu des gens comme François Mitterrand ou d'autres, ou Gaston Defferre, qui lisait des poèmes, qui avait une connaissance de l'histoire.
Mais là, vous parlez de l'évolution du personnel politique, Régis Debray.
Attendez, mais c'est...
Pas exactement l'évolution du débat lié des intellectuels.
La médiocrité qui est au pouvoir est d'abord une médiocrité culturelle. Donc, il y a un écartement croissant, me semble-t-il, entre ce qu'on peut appeler les hommes de culture, ou les hommes de mémoire, ou les hommes de savoir, si vous voulez, et d'autre part, les hommes de représentation, de décision. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais Sylvain Bonbon, vous faites porter la responsabilité sur le personnel politique. Je partage entièrement cette analyse, mais j'aimerais élargir cette responsabilité ou la faire partager aussi du côté des médias, parce que j'ai le sentiment que si le personnel politique vit désormais au rythme des médias et que ça éloigne ces gens de la lecture, de la curiosité pour la recherche, on peut constater la même chose chez les journalistes qui sont trop occupés à mettre en scène la politique pour prendre le temps de s'intéresser véritablement aux idées. C'est un phénomène complexe parce que c'est une coproduction en quelque sorte.
C'est un phénomène hybride. Disons que le dirigeant politique doit se marier avec un ou une médiatique. Couple célèbre qui à 30 ou 40 ans paraissait improbable. Disons que Lionel Jospin épousait une agrégée et aujourd'hui on épouse plutôt une présentatrice de télévision. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un petit détail intéressant.
Je voudrais qu'on reprenne les sujets maintenant qui sont débattus, puisque vous disiez qu'il y avait des lames de fond, Régis Debray, dont on ne parlait pas ou dont on débattait assez peu en France. Quand on reprend ne serait-ce que quelques-uns des intitulés des débats qui ont lieu à Pétrarque en 1986, on peut voir des choses comme la France, nouvelle conscience, point d'interrogation, ou le retour du religieux, ou la démocratie, nouvelle donne. On se dit qu'au fond, alors que depuis 30 ans, les choses ont considérablement bougé, les lignes ont bougé, les clivages ont bougé, l'espace, comme vous venez de le dire, de débat a bougé, eh bien, finalement, les sujets, ces sujets-là, restent les mêmes, restent valables. Qu'est-ce que ça dit, ça, de l'évolution de la France, tout simplement ?
Ça dit que l'intellectuel a tout de même un côté vigie, c'est-à-dire qu'il doit avoir une fonction de détection de ce qui va naître. Donc c'est normal qu'il soit un peu en avance. La différence,
ça veut dire qu'aujourd'hui on est en retard, alors, parce qu'on reprend les mêmes sujets.
Non, la lecture et le public est en retard sur la production intellectuelle. Quand vous parliez dans les années 80 du phénomène religieux, j'en sais quelque chose, vous étiez pris soit pour un gars pas très sérieux, ou qui venait de se convertir derrière un pilier de Notre-Dame de Paris. On ne vendait pas beaucoup à l'époque. Tout le monde parle de religion. Donc il y a un décalage, si vous voulez, entre la détection d'un phénomène en train de naître et sa perception par la majorité des gens, et notamment par l'univers politico-médiatique.
Mais au fond, ce qui est surprenant, c'est pas tant le fait que ces sujets n'aient pas bougé, que au fondement de Pétrarque, il y a 30 ans, on se pose des questions sur l'identité nationale, qui effectivement ont saturé l'espace public depuis 30 ans, toutes ces questions. Ce qui, moi, me surprend davantage, c'est le fait que ces questions continuent d'être présentées par un certain type d'intervenants dans le débat public comme des questions taboues dont on ne parle jamais. C'est cette rhétorique néo-réactionnaire qui a été mise en évidence par certains, qui a fait office aussi de politique éditoriale pour certains médias, parce que c'est vendeur de présenter quelque chose comme tabou, comme la chose dont on ne parle jamais. Ça devient ridicule, puisqu'en fait, on ne parle que de ça depuis 30 ans.
Oui, non, mais ça, si vous voulez, ce sont les tics de la comédie intellectuelle. Il faut que l'intello soit un martyr, pourchassé par tout le monde. Il faut que la moindre expression soit scandaleuse, il faut que le moindre pamphlet soit un événement, et il faut en tout cas que toujours apparaître comme un réprouvé. Bon, ça, écoutez, ça... Ça fait
c'est
rire.
Une passion française.
Ça fait rire.
Mais et ça fait vendre plus que jamais.
Est-ce que ça fait vendre encore?
Est-ce que les néo-réacs ont pris le pouvoir intellectuel? Parce que c'est un peu ça. Je pose la question un peu plus, en forçant un peu le trait.
Oui, certainement. Mais vous savez, je n'aime pas trop ces divisions, ces dichotomies. Moi, je suis un réactionnaire de progrès. Hein bon. Et je pourrais en citer
d'autres. Un révolutionnaire conservateur, etc.
Non, révolutionnaire conservateur, ça prend une autre connotation.
Oui, mais enfin, vous alliez des mots qui ne sont pas...
Ah non, jamais. Non, mais je pense... j'ai des frères dans cette petite minuscule phalange. Ils peuvent s'appeler Pasolini, hein. Défenseur des Lucioles, contre les néo-bourgeois. Il peut s'appeler Walter Benjamin, hein, qui voulait en revenir, ce qu'il appelait, à des éclats de temps messianique. Ils peuvent s'appeler Orwell. Bref, on est quelques-uns, mais on n'a pas le vent en poupe. Donc l'expression de néo-réac, je la trouve un peu commode, un peu facile. Il faut un peu, comment dirais-je, assouplir toutes ces articulations. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants. On est tous un peu méchants, disons.
Et tous un peu bons aussi. Allez, merci beaucoup Régis Debray. 30 ans de débat, vous y participez, 1986-2016. 30 livres événements également, c'est à découvrir dans le hors-série du Monde et de France Culture. Les rencontres de Pétrarque seront à Montpellier du 11 au 15 juillet et bien entendu diffusées sur cette même chaîne. Et je rappelle le titre de ce livre, des écrits littéraires, Carnet de route, Régis Debray, en Quarto Gallimard. Alors là, c'est carrément 50 ans d'écrits littéraires. Merci encore. C'est tout de suite le médiateur.
France Culture, la grande table, le rendez-vous du médiateur.
Bonjour Bruno Denas.
Bonjour Karine Brouet, bonjour à tous.
Dernier rendez-vous du médiateur avant l'été et vous recevez, pour parler justement de l'été et peut-être même de la rentrée, vous recevez la directrice de France Culture, Sandrine Trainer.
Bonjour Sandrine Trainer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Alors en effet, l'année s'achève mais déjà, on va en parler, la grille de rentrée commence à se dévoiler pour France Culture et les auditeurs réagissent toujours aussi rapidement. Les auditeurs France Culture sont très réactifs. Ils nous ont écrit pour demander des précisions, voire pour y mettre des réactions, donc qui mieux que la directrice pour répondre à toutes ces questions. Alors on va commencer tout de suite par les matins qui réunissent le plus grand nombre d'auditeurs chaque jour. Les matins m'ont parfois valu des avalanches de messages, notamment à propos des chroniqueurs, des éditorialistes, des invités. Toujours une matinale à la rentrée, Sandrine ?
Oui, toujours une matinale à la rentrée. Une matinale, nous ouvrirons l'antenne à 6h du matin. On peut dire que la matinale durera de 6h à 9h, sauf que de 6h à 7h, nos auditeurs découvriront Émilie Chaudet, qui est une jeune journaliste qui avait commencé du côté de la rédaction de France Culture avant de prendre en charge, de produire des programmes d'été. D'ailleurs, elle est cet été sur l'antenne de France Culture à la tête du Grain à Moudre.
Donc elle enchaînera.
D'été, voilà. Donc elle enchaînera. Donc elle sera à l'antenne de 6h à 7h avec les rendez-vous auxquels nos auditeurs sont habitués. La culture, partout Fikakem, la vie des débats avec Jacques Munier, les enjeux internationaux, Thierry Garcin. Je fais attention évidemment de tous les citer. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais sinon, nos auditeurs, qui sont effectivement très scrupuleux, disent tout de suite « Ah, mais il y en a un qu'elle n'a pas cité, est-ce que ça veut dire que... » Non,
on
ça ne veut pas dire.
Si Raphaël Bourgeois, vous ne l'avez pas cité.
7, ben non, mais il ne sera pas dans les matins.
Non, mais il sera au Grain à Moudre.
Ah ben ouais, mais non, mais ça c'est l'été. Alors voilà, ça y est, c'est la perturbation totale. Et de 7 à 9, Guillaume Erner proposera une matinale très largement renouvelée, clarifiée, intégrant un journal de la culture, par exemple. J'avais beaucoup de messages d'auditeurs disant « Il faudrait parler davantage de la culture. » Eh ben oui, Zoé Sfez viendra chaque matin parler de culture dans les matins de France Culture. Et Xavier Delaporte qui revient en quotidienne, je crois.
Et Brice Couturier, parce que j'ai souvent été interpellé sur Brice Couturier.
Mais oui, alors Brice Couturier, sur son Facebook, il expliquait « Moi, j'ai toujours eu pour principe 5 ans et puis on passe à autre chose. » En l'occurrence, il n'est pas le seul d'ailleurs d'avoir fait ce choix-là. Et donc, Brice a souhaité être du côté des idées de manière à la fois très appuyée, avec le spectre international qui est le sien. Hein. Tout le monde sait qu'il cite Project Syndicate et un certain nombre d'autres sites très régulièrement. Et donc, il sera dans l'émission de Florian Delorme, Culture Monde, où il tiendra une revue de presse internationale des idées. Et puis, on retrouvera le vendredi dans le grain à moudre, un grand grain à moudre un peu spécial.
Alors, continuons un petit peu avec les matins et ce reproche qui revient assez régulièrement. Par exemple, Jean, qui nous a même écrit dès cette semaine, je n'entends parler que de décryptage de l'info, de décryptage de la politique, on multiplie les commentaires d'actualité, vous finissez par faire comme les autres. Non, pas tout à fait, si.
Oui, ben écoutez, alors par exemple, hier, il se trouve qu'il n'y avait pas de matinale, moi j'écoute la mienne, celle de France Culture. Mais du coup, je suis allée écouter les autres. Ben, je ne dirais pas laquelle je suis allée écouter, en l'occurrence, c'était, enfin, il n'y avait essentiellement d'ailleurs pas de matinale
oui,
Radio France, donc voilà, bon.
J'en ai particulière.
Non, vraiment, je crois que c'est extrêmement différent. Je crois, si je peux me permettre, que Jean se trompe un peu, ce que d'ailleurs les études nous montrent, hein, les gens viennent massivement écouter l'information sur France Culture, et
parce
pour de bonnes raisons. Parce qu'elle est différente, parce qu'elle prend le temps, elle est dans une temporalité un peu différente, et que les émissions qui, en l'occurrence, pensent le décryptage, mais encore faut-il être effectivement dans une vraie qualité de décryptage, mais ont envie qu'on les aide à comprendre un monde qui, a, pour de très bonnes raisons, nous échappe régulièrement. Donc, en l'occurrence, c'est vraiment par le regard et la puissance du regard que France Culture fait la différence. Pas les sujets, on est dans le monde, on est tous dans le monde en fait. Même si on voulait y échapper, ils nous rattraperaient.
Alors d'autres changements concernant l'information, notamment ça concerne Caroline, le samedi.
Mais oui.
Concernant l'information, non.
Non, alors en l'occurrence c'est pas... Non, l'information sur Caroline. Alors l'information sur Caroline Brouet, c'est que Caroline Brouet, au bout de 5 ans, 6 ans, parce que oui, mais il y avait une première année un peu différente avec Hervé Gardette, Caroline Brouet va aller créer une matinale...
Le samedi.
Du samedi. Voilà, un peu particulière, avec plus de temps, la culture, les idées, et puis de l'information.
Donc elle va se lever beaucoup plus tôt.
Oui.
Une fois par semaine.
Alors, l'année qui...
Mais on ne l'a pas forcé.
L'année qui nous attend s'annonce très politique, avec en effet les primaires à droite, à gauche, l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous allez faire ou offrir de différent des autres radios?
On va faire d'abord, ce qu'on va faire de très différent, c'est qu'on ne s'est pas rué... parce que c'est pas notre identité sur des dispositifs visant à faire je sais pas quoi une grande émission simplement de parole politique et de questionnement de la parole
et d'entendre
politique,
la même chose.
Etc. Donc nous on va utiliser nos armes et nos armes c'est la connaissance, les savoirs, la culture. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, dans la fabrique de l'histoire, dans les nouveaux chemins de la connaissance, nous allons faire des petits précis d'histoire à l'usage des politiques, des candidats en temps de campagne. Petits précis de philosophie à l'égard des politiques en temps de campagne. C'est-à-dire qu'on va vraiment penser la manière de mettre de la science... dans l'appréhension de ce que c'est qu'une campagne, ce que c'est que le vote, ce que c'est que la démocratie, et essayer de, voilà, d'élargir le champ du politique.
Alors, puisque vous parlez de science, il y a une autre question qui préoccupe les auditeurs, c'est la place justement des sciences sur France Culture. Et Benoît vient de nous écrire « Je suis consterné par l'arrêt des émissions scientifiques
mais
de
Benoît
France Culture ».
Benoît se trompe, Benoît.
Je pense bien, mais
Benoît
expliquez-nous.
Benoît peut être rassuré, il y aura donc une émission scientifique produite par Nicolas Martin, du lundi au vendredi, à l'heure des sciences sur France Culture. Donc que Benoît se rassure, qu'il écoute Nicolas Martin. Je pense que Nicolas Martin le convaincra de la place toujours aussi importante, voire renouvelée, de la science sur France Culture.
Alors, il y avait aussi une inquiétude, notamment sur les réseaux sociaux d'ailleurs, à propos de la fin de l'émission Terre à Terre de Ruth Stegassi. C'est le samedi à 7h,
oui.
Mais ça va quand même continuer, l'environnement,
alors
la Terre.
Absolument, donc Ruth Stegassi a choisi d'inventer une nouvelle vie, pas révéler les choses au micro, mais enfin elle a un grand projet assez magnifique. Du reste, elle est venue me l'annoncer. Donc elle arrête la radio, parce qu'on n'a pas encore les moyens de... forcer les gens à continuer à faire de la radio, mais d'une part, je saisis l'occasion pour la remercier de ce qu'elle a fait pendant très longtemps sur l'antenne de France Culture. Et évidemment, il y aura un nouveau magazine de l'environnement
qui sera
le dimanche à 16h, absolument. Et c'est Aurélie Luneau qui le produira.
Alors pour terminer rapidement, Sandrine, c'est votre première grille pleinement assumée. Est-ce que vous avez tenu compte aussi des remarques des auditeurs pour changer à la rentrée?
Oui, enfin la réponse est à la fois oui et en même temps c'est difficile de répondre aussi rapidement parce que il y a des auditeurs qui pensent des choses, d'autres qui pensent exactement l'inverse.
J'en sais quelque chose.
Voilà, comme vous le savez. Mais oui, j'essaye d'écouter mon époque. Oui, bien sûr.
Et, alors merci Sandrine Trainer, en tout cas.
Merci à vous.
Directrice de France Culture pour toutes ces
et
précisions.
Et bon été à l'écoute de France Culture, à l'ensemble de nos auditrices et auditeurs.
Exactement, et merci Caroline Bruyne de m'avoir accueilli dans la Grande Table durant toute cette année.
Ce fut un plaisir, merci à vous, Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg. Constitue toute l'équipe de la Grande Table, à la réalisation Philippe Baudouin, bien sûr, et à la technique Jacques Hubert.